visible.
Visible.
C'est parti. Bonjour et bienvenue à vous, auditeurs. Pour ce nouvel épisode de Visible, je reçois un comédien de talent, auréolé par un Molière en 2020. Il tient le rôle principal de l'adaptation de Edwige and the Angry Inch au Café de la Danse à Paris, d'après l'œuvre de John Cameron Mitchell. Bonjour Brice Hilleray.
Bonjour Timothée.
Bienvenue.
Merci, je suis ravi d'être là.
Ben, merci à toi. Alors, Edwige and the Angry Inch, ce n'est pas une comédie musicale, ce n'est pas un concert, ce n'est pas du stand-up, c'est les trois à la fois et même plus que ça. Je ne sais pas si Edwige est là, mais comment résumer ce show?
Bah déjà, on va l'appeler Edwige parce que sinon on pense tout de suite à Edwige Feuillère, que j'adore par ailleurs, paix à son âme. Et comment le résumer? Je pense que tu as tout dit, c'est ni un stand-up, ni un concert de rock, ni une pièce de théâtre, et pourtant c'est vraiment tout ça à la fois. Moi je tiens absolument à la notion de fiction, et c'est vraiment une fiction, c'est très très important. Pour moi, l'identification, elle passe par la fiction, toujours. Donc c'est théâtral. La forme, c'est-à-dire sans aucun quatrième mur, l'acteur qui s'adresse au public, c'est du stand-up. Mais c'est pas ma vie que je raconte, c'est bien celle du personnage. Et c'est un concert de rock auquel on assiste. Toute la dramaturgie est écrite autour du concert de rock. Edwige et son groupe, ils viennent donner leur concert, et pendant son concert, elle se livre.
Elle raconte son histoire.
Ouais, exactement.
Et alors du coup, comment toi tu as découvert cette œuvre?
C'est mon metteur en scène qui s'appelle Dominique Guillot, qui portait ce projet depuis un moment et qui tenait à me faire découvrir le film que je connaissais pas, il y a 3 ans. Et donc il m'a montré le film, je suis tombé de ma chaise. Je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il le fasse et qu'il se dépêche de le faire, c'était urgent que ce soit fait en France. Je n'en revenais pas que ça n'ait pas toujours été fait. Toujours pas été fait. Et je n'ai pas du tout pensé à moi immédiatement. Je lui ai parlé de plein d'autres acteurs qui seraient...
C'est vrai ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je lui ai dit, va voir un tel, va voir ce mec sur scène. Je lui ai parlé de la troupe de Madame Arthur, d'aller les voir. Et puis, le confinement est arrivé.
D'accord.
Ouais, le confinement est arrivé, donc il a arrêté. On a tous arrêté tout ce qu'on faisait. Et en sortant du confinement, j'ai reçu ce Molière dont tu parlais en introduction. Et en fait, ça, c'est un drôle de truc quand ça arrive, parce que ça nous demande de nous positionner un peu, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur, de me positionner sur où j'en suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire ou pas. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de me servir de de ce prix, de cette reconnaissance, pour faire quelque chose qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et pas juste un spectacle de plus. Bon, j'ai réfléchi moins d'une minute 12 et j'ai su que c'était Edwige que je voulais faire. J'ai rappelé Dominique et j'ai travaillé un titre et je suis allé chez lui et je lui ai fait un titre dans son salon, sur son canapé. Et on était en larmes à la fin et
c'est
on
vrai.
S'est dit, on le fait.
Ah, c'est super.
Voilà.
Mais... Tu dis ça, t'as mis une minute à t'en rendre compte. Ça veut dire que le rôle, il était un peu là ou tu regardais pas ce qui
se
passait?
Non, ça veut dire que je n'imaginais pas une seconde que j'avais le cran d'aller faire ça.
Pourquoi tu parles de cran?
Parce que se présenter sur scène pour porter cette parole-là, l'abattage que ça demande... et le texte en stand-up, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et ne parlons même pas des chansons, chansons de rock pur, rock et ballade, mais ballade de rock quand même. C'est quelque chose dont je rêvais depuis toujours, mais que je n'ai jamais fait. Et donc les rêves qu'on n'a pas réalisés, on les enfouit un petit peu, on les fait taire. Sinon, on s'en sort pas, quoi.
Mais surtout un rôle comme ça, il est assez unique.
Ah bah oui, bien sûr. Il est unique. Et en fait, après, le fait qu'il soit unique, ça, c'est des choses dont je me suis débarrassé tout de suite quand j'ai pris la décision de le faire. Sinon, ça m'encombre. Mais en tout cas, je me suis dit, mais bien sûr que tu vas en être capable. Tu vas te donner les moyens et tu vas le faire. Donc, j'ai travaillé et je l'ai fait.
Et donc, tu racontais que tu as présenté cette chanson à Dominique Guillot. Vous étiez en larmes sur la fin. Et ensuite... Vous avez bossé ensemble sur l'adaptation ?
Ouais, exactement. Ensuite, j'ai repris le flambeau de l'adaptation qu'il avait déjà avancé. Et puis, on avançait sans production. Donc, c'est toujours compliqué dans notre métier. On fait ça beaucoup. Tous les artistes font ça. On n'est pas tout de suite gâtés. Donc, on travaille un peu dans son coin. Et voilà, Dominique, de manière tout à fait légitime, m'a dit « Écoute, j'ai beaucoup avancé, mais là, j'ai besoin de prendre un peu de distance. Ok, j'arrive. » Je m'en suis occupé. Il se trouve qu'on a eu un deuxième confinement, donc j'ai eu,
oui, c'est vrai.
J'ai eu beaucoup de temps à donner à Hedwig. Et puis après, ça, un travail comme ça sur une adaptation, il y a un moment où on fait une dernière version, mais à la fois ça évolue tout le temps. La version que j'ai présentée à Avignon n'est pas la seule, la même que celle qu'on présente au Café de la Danse.
Alors, il y a aussi le choix du casting qui est assez incroyable. Comment ça s'est fait, ce casting ? Est-ce que tu as participé, toi, ou...
Oui, sur ma partenaire, qui joue mon mari,
oui.
Yitzhak. On a fait passer des auditions. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et alors, ça démarrait très, très bien et très, très mal. C'est-à-dire que la première personne qui est passée, à 10h du matin, était déjà d'un niveau extraordinaire. Donc, une fois qu'elle est sortie, je me retourne vers mes camarades. Et je leur dis, on est quand même vraiment dans la merde, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir entre l'excellence et la perfection, comment on va s'en sortir. Et on a eu que des actrices chanteuses d'un talent inouï. Moi, je ne fais pas de comédie musicale, donc c'est vraiment un secteur que je ne connais pas beaucoup. Et je suis très, très, très impressionné par les chanteuses. Très, je les adore, je suis fou des chanteuses. Il y a plein de chanteurs que j'aime, mais c'est les chanteuses que j'écoute depuis toujours. Donc elles m'impressionnent énormément. Et puis, Antea Chauvière est arrivée. Et là, on est au-delà du talent et des notes. Il se trouve qu'on cherchait la comédienne qui allait interpréter mon mari et que je suis tombé amoureux d'elle.
Ah, c'est beau.
Comme on tombe amoureux d'un partenaire, comme on tombe amoureux. Et c'était vraiment ça. Et donc, quand elle est sortie, j'avais qu'une hantise, c'est que je sois le seul à être tombé amoureux d'elle. Bon, ben, j'étais pas le seul.
Oui, ça a été une évidence pour tout le monde.
Ouais, absolument.
C'est aussi une artiste de cabaret, il me semble.
Oui, oui. Elle fait du drag. Ouais.
Et il fallait ça, ou pas, pour ce rôle ?
Pas forcément. Pas. Non, c'était pas une évidence. En tout cas, c'était pas un critère.
D'accord.
Non, pas du tout. Ce qu'il fallait, c'était une grande artiste. Et ben voilà, on l'a trouvée. Et la grande artiste. Elle peut venir du drag, elle peut venir de la danse, elle peut venir de la comédie musicale, elle peut venir du théâtre subventionné, elle peut venir de partout. Ce qui était très important, il me semble, pour tous les gens qui participent à ce spectacle, c'est d'avoir un spectre et un intérêt artistique très large. Là, on n'a que des gens qui sont extrêmement ouverts, curieux et qui ne font pas de hiérarchie culturelle.
Oui, je vois très bien. Mais surtout, comment vous avez réussi à bosser, alors, outre la pièce et tout, mais cet esprit de troupe, parce qu'on y croit au groupe.
Enfin, ça, c'est le talent de Dominique. D'accord. C'est vraiment le metteur en scène qui a mis en scène des comédies musicales et qui a aussi mis en scène beaucoup de théâtre et aussi beaucoup de films à télévision. Donc, c'est quelqu'un qui sait diriger des acteurs et qui sait diriger des troupes de théâtre pour raconter une histoire de fiction. Et l'histoire qu'il raconte avec nous sur scène, la fiction de ce groupe-là, elle n'existe pas tellement dans la version américaine. C'est-à-dire que dans la version américaine, on a Hedwig, on a Yitzhak, il y a évidemment des choses qui se passent entre eux, mais les musiciens, ce sont des musiciens de concert qui sont dans leur coin et qui sont là et qui jouent. Bon, ben Dominique, il leur a donné un rôle à chacun, et comme une troupe de théâtre, exactement ce que tu dis.
Et oui, et puis ça marche bien. Tous ils sont identifiés, voit, ils jouent avec... comme tu disais, il n'y a pas de quatrième mur, du coup, ils jouent avec le public, ouais. Vous jouez ensemble et tout.
Ouais, c'est très, très important. Et puis, tout ça raconte quelque chose. Ça raconte leur relation à eux tous, les musiciens et Hedwig et les musiciens. Elle n'est pas toujours simple, mes mères, avec eux et avec son mari. Et donc tout ça, c'était important de...
Elle n'est jamais simple.
Exactement. Elle n'est pas simple, elle n'a pas eu une vie simple, rien n'a été simple. Il n'y a aucune raison qu'elle soit simple. Sauf qu'elle va peut-être à la fin vers quelque chose qui va lui ressembler davantage.
Mais alors, du coup, en parlant d'Hedwig, comment tu t'es préparé à ce rôle-là ?
Je pense que tout m'y a préparé. Tout le travail m'y a préparé. C'est du travail. C'est principalement et et en fait uniquement du travail, mais c'est plusieurs étapes de travail. C'est le travail que j'ai fait sur le texte en tant qu'adaptateur. Donc évidemment, bah, c'est une immersion totale dans le texte pendant des semaines et des semaines et des semaines, puis on laisse reposer, puis on y revient. C'est le travail avec les chansons, évidemment. Donc c'est les écouter en boucle, toujours, dans des moments très différents de ma journée. Et puis c'est commencer à essayer de les comprendre, ces chansons, musicalement parlant. Et puis après, bah, une fois qu'on enfile ce costume-là, je pense que ce qu'il y a de plus féminin en moi, ce qu'il y a de plus meurtri, ce qu'il y a de plus égocentrique aussi, et bah, tout ça a eu la liberté de s'exprimer par ce personnage-là qui, moi, me bouleverse de bout en bout, même en parlant, ça me... C'est un personnage qui traverse comme ça son existence et celle des autres, qui laisse des marques. Et puis, comme nous tous, et on rencontre des personnes qui vont puiser beaucoup chez nous jusqu'à nous assécher. Et puis d'autres qui vont prendre des choses de nous, puis nous en donner à eux. Et elle fait ça, Hedwig. Et elle a du mal. Elle a du mal à s'en sortir, à rencontrer la personne qui va la respecter et que donc elle aura envie de respecter à son tour. Mais c'est une quête, moi c'est une quête absolue depuis toujours.
Mais du coup, moi je me suis posé la question parce que du coup, on n'est pas dans un drag show, mais un peu quand même. Parce qu'il y a quand même une sorte de travestissement.
Ah oui, ouais, totalement.
De ton côté. Est-ce que tu avais des inspirations ?
J'ai des inspirations, bien sûr, j'ai des inspirations de femmes, beaucoup d'artistes, d'actrices, de chanteuses dont je parlais tout à l'heure, des femmes que je trouve puissantes, pas la puissance qui écrase, mais la puissance du parcours, la puissance de la pensée. C'est très très important qu'on ait des réalisatrices, des écrivaines, des actrices, des chanteuses, des autrices, des compositrices qui à un moment commencent, j'espère, à devenir de plus en plus nombreuses et surtout plus nombreuses que les hommes. C'est bien joli l'égalité, mais si à un moment ça pouvait juste s'inverser, je pense que ça ferait du bien à toute la société.
Totalement. Il y a aussi, c'est aussi un rôle que je trouve très physique, parce qu'il faut tenir sur scène.
C'est très physique.
Comment tu t'y préparais à ça?
J'avais très très peur de ne pas tenir sur la longueur, d'être essoufflé, de ne plus avoir de souffle, de ne plus avoir de jambes, de ne pas tenir sur la longueur. Je me disais, ok, je me prépare suffisamment pour une représentation, ça devrait aller, mais bah, à Avignon, il fallait en faire 20 en 3 semaines.
Ah oui,
ouais.
Autant.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, bah, la préparation, elle est comme n'importe quelle préparation physique sportive. Je l'ai vraiment vu comme un marathon, comme une épreuve sportive à passer et à tenir sur la longueur. Bah, donc, bah, on fait super attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, aux heures de sommeil, à la vitamine, à la voix. C'est tout ça. Moi, j'essaie d'être focalisé uniquement sur cet objectif-là. J'imagine comme peuvent le faire les grands sportifs, ce que je ne suis pas, pour quand une épreuve les attend. Aucun écart n'est possible parce que l'écart fait revenir en arrière tout le temps. Et à vrai dire, c'est plus compliqué là à Paris parce qu'on a choisi en termes d'exposition et de production de jouer deux fois par mois jusqu'au mois de juin. Ce qui veut dire qu'il faut se réunir, se rassembler physiquement seulement deux fois par mois, ponctuellement. Et c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'un marathon qui dure 3 semaines.
Ouais.
Parce que
c'est pas la même énergie, du coup.
C'est pas la même énergie. Et puis, à partir du moment où j'ai qu'une ou deux représentations d'Hedwig, je fais d'autres choses à côté, mais d'Hedwig par mois, bon, ben, je peux pas être uniquement dans l'objectif Hedwig pendant un mois, puisque la vie et mon métier m'appellent aussi ailleurs de temps en temps.
Bien sûr.
Donc il faut se reconditionner dans les jours qui précèdent la représentation. C'est pas du tout désagréable, mais ça demande, je trouve, encore plus d'efforts que d'y aller une bonne fois pour toutes.
Bah, surtout pour un, pour un rôle comme Hedwig, qui est quand même un personnage, faut l'incarner. Il y a tellement de facettes, tellement de nuances, tellement de couleurs, tellement de choses que, oui, se remettre dans Hedwig deux fois par mois, ça doit être un peu...
Mais c'est une fois qu'on a fait les choses... En fait, quand on est acteur, on se rend compte que tout ce qui précède la première représentation, ça n'est que de l'instabilité, ça n'est que de l'angoisse, parce qu'on ne sait pas si on est au bon endroit. Moi, je résume toujours les choses comme ça. On travaille, on répète avec les acteurs, avec les metteurs en scène, avec la technique. On travaille, mais on ne sait pas si on est au bon endroit, si ce qu'on fait, c'est juste. Juste ça, juste. On ne se pose même pas la question de savoir si c'est bien, mais au moins, est-ce qu'on est au bon endroit ? Eh bien, toujours, pour moi, ça se vérifie. On passe la première et on a la réponse. Et une fois qu'on a la réponse, quand elle est positive, de « on est au bon endroit », eh ben, après, il n'y a plus qu'à jouer. C'est-à-dire qu'on a posé un socle, on a posé des marques, on a montré quelque chose que le public a reçu en disant « oui, d'accord, vous pouvez y aller ». Et donc après, eh ben, il suffit de retraverser ça et on est plein de toutes les représentations précédentes. Donc moi, j'en suis à 22 représentations. Lundi prochain, j'ai la 23e. Donc je serai plein des 22 qui m'ont habité.
Et comment ça s'est passé du coup la première à Avignon ?
C'était un saut dans le vide terrifiant. C'est toujours un peu ça à Avignon. C'est des conditions très compliquées à Avignon. Tous les acteurs le savent. Le off à Avignon, on a un créneau très réduit parce qu'il y a beaucoup de compagnies dans le même théâtre. C'est un marathon pas du tout confortable. Donc c'est très effrayant. On a joué la première comme un premier filage. On n'avait pas fait de filage vraiment parce qu'on n'avait pas eu le temps. Donc on a préféré privilégier la technique pour que le son soit bon le soir de la première, ce qu'on a fait et on a bien fait de le faire. Mais c'est vrai que quand on fait une première, que l'auteur et compositeur des chansons d'Hedwig est dans la salle, Stephen Trask, et que ma mère et mon compagnon sont là, et tous ces gens que je ne connais pas, et que c'est la première fois qu'on va le traverser, c'est très très vertigineux,
ouais,
totalement.
Et ça s'est passé comment cette première ?
Très bien, puisqu'on a dit on remet ça demain.
Et c'était quoi comme genre de scène en fait par rapport au Café de la Danse qui est une scène assez grande en fait?
Ouais. C'était beaucoup plus petit.
Ah.
Ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose d'un peu cabaret. Le théâtre du Rouge-Gorge, je l'ai trouvé en 2022. Je suis allé voir, je cherchais une salle pour Hedwig et je suis allé voir un spectacle là-bas. Et c'est une salle, c'est un écrin absolument parfait pour un spectacle différent des autres. C'est un écrin très cabaret, très. C'est une grande salle tout en longueur avec une grande verrière. Et donc j'ai rêvé Hedwig là immédiatement. Mais un plateau absolument minuscule pour faire tenir 6 musiciens, 6 instruments, dont une batterie. On l'a fait. Le metteur en scène et scénographe Dominique Guillot a réussi à projeter ça là.
Je ne l'ai pas vu à Avignon, moi. Je l'ai vu au Café de la Danse.
Donc la scénographie est différente au Café de la Danse. On est plus sur un grand show, je l'espère, qui ressemble un peu à du Broadway, mais c'était un peu plus foutraque à Avignon. Ça restait élégant, mais...
Ça reste aussi dans la continuité de l'histoire. Enfin, ça sert à l'histoire, du coup.
Ouais.
Alors moi, je voudrais qu'on parle du chant, parce que tu es comédien de théâtre principalement, pas que. Hein. Et c'était quoi ton rapport au chant avant Hedwig ?
Ça vient de très très loin, ça vient de l'enfance, et la première envie par-dessus tout, c'est d'être une pop star. Une rock star, d'être le chanteur qui se donne, qui s'oublie. Enfin, moi, je suis très en admiration devant un chanteur qui remplit Bercy. C'est extraordinaire de se donner comme ça. Et puis l'exercice du chant, j'ai toujours chanté depuis toujours parce que il n'y a pas un refuge plus plus réconfortant, plus salvateur, plus sécurisant, je trouve, que le chant. Le chant, on peut pas tricher, on triche dans des rôles, on triche. Oui, bien sûr qu'on triche. Mmh. Mais le chanteur, la chanteuse ne peut pas tricher. Sa voix, elle est telle qu'elle est, elle la donne. Et quelle que soit sa voix, c'est elle qu'elle représente. Donc c'est quelque chose qui me fascine et qui à la fois m'a toujours fait peur. Mon parcours m'a amené à faire plutôt du théâtre. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai chanté dans des spectacles, un peu cabaret, un peu théâtre contemporain. J'ai chanté une, deux, trois chansons dans un spectacle. Voilà, mais pas sans une sonorisation de concert. Et en fait, là, j'arrive à jouer un spectacle qui réunit absolument tout ce dont je suis fou. Le stand-up est un genre qui m'a intéressé aussi dans l'adolescence. Et tout à coup, oui, je me retrouve avec le projet je me suis dit quand j'ai pris la décision de le faire, mais Brice réfléchit deux minutes, c'est fait pour toi. Alors tu verras si t'en es capable ou pas, mais quand même, ça réunit absolument tout ce dont tu rêves. Et voilà, et puis il fallait travailler, je m'en sentais capable parce que c'était, au-delà d'une comédie musicale, il s'agit de chansons. Et moi, ce que j'aime, c'est la chanson. C'est les morceaux de musique. Je ne sais pas si j'aurais... Le talent, la technique pour interpréter une comédie musicale plus traditionnelle, les grandes comédies musicales de Sondheim ou de. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Alors qu'une chanson qui dure 3 minutes 15, et avant je parle, et après je parle, et pendant je chante, ça me parlait, ça je me sentais capable.
Alors justement, sur ces parties parlées, est-ce que tout est écrit ou est-ce qu'il y a quand même de l'impro ?
Ah oui, il y a des moments d'impro. Tout est écrit, bien sûr, tout est là, mais on ne peut pas être en stand-up. Donc, face aux gens, même si on est dans une histoire, dans une narration à suivre, on ne peut pas dire il n'y a pas de quatrième mur chez nous et en ériger un, c'est-à-dire ne pas réagir à ce qui se passe. Donc, bien sûr, il y a de l'impro, puisque c'est jamais les mêmes personnes qui sont là, donc c'est pas les mêmes réactions, il se passe pas la même chose, ni nous sur scène. Donc je crois pas que ce soit possible, à partir du moment où on s'adresse à des gens, de faire tous les soirs la même chose. Ça me semble pas possible. Ou alors c'est un concert très... très calibré d'une Madonna ou d'un Michael Jackson, mais qui ne vont pas prendre la parole pour briser ce mur-là qui reste de leur côté. Nous, on reste pas de notre côté. On va dans la salle, on joue avec la salle.
Mais ça se ressent, hein, ça se ressent. Alors, je trouve qu'il y a évidemment. Enfin, moi, j'ai pas vu le show à Broadway, j'ai vu le film à sa sortie. Et ce qui est assez incroyable, hein, en fait, en allant au Café de la Danse, c'est que on y croit de suite. Dès l'arrivée d'Edwig, on a genre, ok, c'est vraiment ce que je me suis dit. Hein, parce que cette adaptation, elle peut être extrêmement complexe et compliquée par rapport aux attentes ou par rapport aux gens qui ne connaissent pas et tout. Mais il y a vraiment l'effet dingue. Et il y a un truc, il y a quelque chose qui nous met complètement dedans, c'est ta voix. Comment tu as chopé comment tu as trouvé la voix d'Edwig ? Cet accent, cette...
C'est ma voix, c'est forcément ma voix qui de rôle en rôle s'adapte.
Totalement caméléon en fait.
Oui, mais c'est un personnage caméléon, c'est une histoire caméléon. Elle n'a pas traversé ce que j'ai traversé, j'ai pas traversé ce qu'elle a traversé, Edwig. Mais donc forcément, c'est bien ma voix qui n'est pas trafiquée. Oui, elle a un accent parce que Edwig est née en Allemagne. Elle est partie s'émanciper aux États-Unis, c'était son rêve. Donc il faut que ce soit teinté de tout ça. Mais pour moi, la théâtralité, elle passe dans des influences beaucoup plus que dans une vérité d'accent, une vérité de voix. Je ne féminise pas ma voix du tout, c'est ma voix. En revanche, le costume, le personnage m'apporte une liberté, même vocale. Oui, elle peut tout à coup, elle peut parler en voix de tête, Edwig, si elle en a envie. Elle peut tout se permettre, tout ce que je ne me permets pas moi dans la vie parce que je ne suis pas elle.
Il y a un message puissant, évidemment, dans cette pièce. La montée aujourd'hui, ça a quel sens pour toi ?
Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup de choses à dire après avoir vu le spectacle. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut rappeler que le spectacle a été monté, créé par John Cameron Mitchell aux États-Unis en 98.
Oui.
On est en 2023. Voilà. À partir de là, on se rend compte donc qu'en 25 ans, ça n'a pas été fait en France. Ouais. Ça n'a pas pu se faire en France. Pour 1000 raisons. Mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, ça a lieu et on se dit « Ah là là, qu'est-ce que ce spectacle est important ?» Eh bien, il est d'autant plus important qu'on est déjà en 2023. Et donc, il était grand temps que ce spectacle-là et d'autres... Ça concerne d'autres spectacles, évidemment, d'autres œuvres. Mais que ce spectacle-là, qu'une niche de personnes connaissait ici, soit enfin présenté. Et j'espère et j'ai hâte que le spectacle grandisse, c'est-à-dire qu'il aille toucher un maximum de personnes. Et un maximum de personnes qui ne sont pas du tout le public d'Hedwig. J'en ai très envie. Pour moi, je me bats vraiment... à ça parce que au-delà de la question du genre qui est très importante, mais au-delà de cette question du genre dont on parle enfin en France, mais depuis très très peu de temps à vrai dire, ce qui me plaît et ce qui est pour moi urgent, c'est qu'on laisse les gens, tous les gens, toutes les personnes, une bonne fois pour toutes, être exactement ce qu'ils ont envie d'être. J'aimerais que cette question-là, à un moment, soit réglée. Mmh. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Il ne s'agit pas de tout comprendre de la psychologie d'une personne qui va se définir comme non-binaire. Il ne s'agit pas de tout comprendre de la psychologie d'une petite fille qui se sent petit garçon. Ça n'est pas possible et ça ne fera pas tellement avancer le schmilblick de dire « moi j'ai compris, moi j'ai pas compris ». Juste, est-ce qu'il est possible une bonne fois pour toutes, de les laisser faire.
Exactement. C'est le message.
Mais je l'espère, parce que Hedwig, c'est un cas très, très particulier.
Oui.
C'est un individu qui est passé de l'autre côté d'un mur, d'un océan et d'un genre.
Mais pas tout à fait.
Pas tout à fait. Et puis, pas tout à fait de manière décidée. C'est quelque chose qui lui a été un peu imposé. Donc, c'est aussi très barbare. C'est aussi une épreuve terrible pour elle. Et en fait, elle n'a rien décidé, parce qu'on a décidé pour elle. Mmh. Et c'est très important que chacun puisse... c'est une chance que le vocabulaire évolue, que la langue évolue, que tout à coup, des gens parlent pour dire « Eh bien, moi, je me sens non-binaire. C'est comme ça que je me ressens. » Qui peut vraiment le regarder dans les yeux et de dire... Arrête deux minutes. Tu vois bien, t'as un homme, tu ressembles à un homme. Ben ça, c'est pas possible. Ça, tout à coup, c'est une injonction d'un individu sur un autre. Et pour moi, il est grand temps que ça se termine et que chacun soit parfaitement libre, puisque quand même tout ça, mais c'est des questions dont on parle depuis longtemps et depuis 2013 avec le mariage pour tous, tout ça, il s'agit de droits et de revendications qui jamais n'empiète sur la liberté des autres.
Exactement. Faites quelque chose de très politique avec Dominique Guillot, c'était volontaire.
Oui, mais l'œuvre, elle est politique. Monter sur scène, c'est forcément, à un moment, et parfois de manière très, très insidieuse ou très souterraine, c'est toujours forcément un peu politique, puisqu'il s'agit de monter sur une scène dans une société. Dans une société qui laisse les artistes s'exprimer a priori librement, qui donne des subventions à des artistes et des gens qui viennent payer des places. Donc c'est forcément de politique qu'il s'agit, même quand c'est très souterrain. Là, oui, ça l'est plus fortement.
Ça l'est frontalement.
Ça l'est frontalement. Mais bien sûr que la parole de l'artiste, si elle n'est politique, en tout cas, elle est porteuse de messages, de revendications. Et de c'est pour moi un moyen de donner la parole à des gens que je ne connais pas forcément. D'ailleurs, Hedwig, moi, je ne l'ai jamais rencontré. mais il fallait vraiment qu'elle s'exprime en France, qu'on l'entende.
Mais tu vois, tu disais quelque chose assez juste, on a attendu 25 ans avant d'avoir une adaptation en France de cette œuvre, mais qu'elle arrive aujourd'hui en 2023, pour moi, il y a beaucoup de sens, surtout aujourd'hui, sur l'attaque, on attaque frontalement toutes les personnes trans, pas grand monde les défend médiatiquement ni politiquement. Créer cette pièce aujourd'hui, c'est tellement utile, je trouve ça vraiment tellement utile, parce que je veux pas spoiler l'œuvre et tout, mais ça reste un de ces sujets-là, voilà, sans tout raconter.
De toute façon... c'est très utile et je m'en rends compte parce que même dans notre milieu de cultureux, bien sûr que je sais que Hedwig est aussi clivante.
C'est vrai.
Mais bien sûr. Et même dans les institutions et même dans les gens qui ont des postes de direction. Et je ne leur jette pas la pierre, je fais juste ce constat-là que bien sûr qu'il y a des directeurs de théâtre qui ne programmeront pas Hedwig parce qu'ils trouvent ça... compliqué comme question, pas résolu, clivant. Et le clivage ne fait pas recette à leur goût. Moi, je crois exactement l'inverse.
Oui.
Je pense qu'il faut passer par le clivage pour réunir les gens. D'abord, on est clivant et ensuite, on essaie de convaincre. Mais si on veut faire plaisir à tout le monde, on va vers une chose très, très aseptisée, une proposition culturelle totalement. Très aseptisée. Et en tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans la... Dans ce qui est neutre, dans ce qui est lisse. Voilà.
Et alors du coup, vu la configuration de cette, alors je vais dire pièce, mais de ce show, de ce spectacle, on a du mal à trouver quel qualificatif mettre en avant.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un projet de tournée ?
Ah oui, bien sûr. Il y a une équipe de diffusion qui travaille. Ouais, ouais.
Parce que globalement, vous pourriez être en concert.
Ah bah oui, bien sûr.
Partout,
c'est l'idée.
Ouais,
c'est l'idée. Oui, c'est
cool.
En cours.
Bon,
c'est en cours.
On mettra les infos quand on les
aura. Avec plaisir.
Alors moi, je voudrais te parler un peu plus de toi. Toi, petit garçon ou jeune adolescent ou jeune adulte, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien ?
Ben ça, c'est toujours une question un peu délicate parce que soit je ne m'en souviens pas, soit je n'en ai jamais eu conscience. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ce qu'on veut, c'est monter sur la table de la cuisine ? C'est s'installer sur la terrasse du jardin, inviter tous les voisins à venir m'écouter, raconter des histoires, des poèmes, chanter des chansons, faire des sketchs.
Ce que tu faisais petit,
ce que je faisais. Le pourquoi, je ne sais pas exactement.
Mais c'était en toi.
C'était en moi. C'était là tout le temps. Je manquais pas d'amour, moi. J'en ai reçu de l'amour, mais peut-être qu'il m'en fallait plus. Il m'en fallait encore plus. Donc, ça devait passer par remonter sur scène à la fête de l'école, absolument. Et puis, à un moment, me positionner en demandant à mes parents de me laisser aller prendre des cours de théâtre en arrivant au collège.
C'est pour ça que tu quittes Nîmes à 18 ans, pour Paris ?
Oui, absolument. Et c'était tellement ancré que ça n'a même pas fait l'objet d'une discussion familiale un dimanche soir au dîner.
C'était une évidence.
C'était entendu comme ça. Je n'avais jamais parlé que de ça, que de Paris. Et donc Paris, moi je voulais être à Paris pour devenir acteur. Et puis aussi quitter Nîmes pour la capitale dont je rêvais. Je rêvais Paris, parce que Paris, je l'avais vu, j'étais très cinéphile, j'étais un grand lecteur, donc j'ai lu Paris, j'ai vu Paris, j'ai rêvé Paris tout le temps. Donc c'est des images qui m'habitent. Moi, j'ai pu pleurer dans certains quartiers parisiens la première fois que je m'y suis promené, parce que ça me rappelle telle image de tel film. Et puis, il y a évidemment l'émancipation... personnel, sexuel, qui pour moi était pas envisageable. Je sais pas encore vraiment pour quelle raison, mais dans ma ville en province, c'était trop compliqué et c'était quelque chose que je voulais vivre moi. C'était mon expérience. Et dans une ville de province que j'aime infiniment. Les choses concernent tout le monde.
Oui, parce que même si c'est une grande ville, Nîmes,
les gens
connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un. Et c'est vrai que Paris amène l'anonymat et Paris amène cette émancipation chez les jeunes adultes.
Exactement. Donc c'était forcément, pour moi, c'était un paradis d'arriver à Paris. Puisque j'allais devenir acteur, je pouvais m'assumer homosexuel. Et en plus, je gagnais une indépendance dont je rêvais. C'était ma vie, vraiment, quoi.
Du coup, tu as fait les cours Florent.
Oui.
Et comment t'es arrivé au théâtre ? C'est quoi les premiers rôles ?
Il y a des choses très, très différentes. J'ai commencé à jouer... J'essaie de remettre ça dans les bonnes années. J'ai commencé à tourner un peu pour la télé. J'étais encore chez Florent. J'avais rencontré ma première agent qui m'avait vu chez Florent. Et j'avais tourné un peu des séries à droite à gauche. Et ça m'avait beaucoup plu. Et puis, à un moment, je pense que on décide... Je me souviens, j'avais eu un contrat avec des copains. On avait été doublure lumière pour la cérémonie des Molières en 2003.
Mais non, déjà.
Ouais, je fêtais mes 20 ans et on était là et on faisait semblant pendant tout le week-end des répétitions de recevoir un Molière. On faisait un faux discours pour que Jacques Rouvérolis puisse régler ses lumières. Et la cérémonie était mise en scène par Alfredo Arias et son assistante m'avait dit, en me voyant au prompteur faire semblant de recevoir un Molière, « Ah là là, c'est incroyable, vous passez tellement bien à l'image, il faut faire du cinéma. » Il faut faire du cinéma. Je dis, bah oui, j'aimerais bien, mais j'ai 20 ans, c'est pas gagné. Mais il faut choisir. On ne peut pas tout faire. Il faut choisir. Et en fait, elle a eu raison, mais j'ai choisi de faire du théâtre.
Pourquoi ?
Parce que je savais que je ne... Moi, je suis fou de cinéma, je l'ai déjà dit. Et j'ai très envie d'en faire. Et j'ai tourné un peu à droite à gauche et j'adore ça. Et je veux tourner plus. Je veux dégager du temps pour ça. Mais je peux vivre sans cinéma. Je le sais. La preuve, j'ai 40 ans et je suis là. Mais je ne suis pas sûr d'être capable de tenir debout sans être sur une scène. Donc voilà.
Ça revient de l'histoire du petit garçon qui est debout sur la table de la cuisine.
Ouais, voilà. Allô, Freud ?
Non, pas du tout. Alors, je voudrais, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça a fait de recevoir un Molière ?
Ça fait très plaisir. Ça fait très, ça bouscule beaucoup. Je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose de le recevoir à 25 ans ou à 37 ans, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure de la première représentation d'un spectacle où on nous dit c'est bon, vous êtes au bon endroit. Eh ben, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que j'ai reçu l'approbation.
Ouais.
D'un métier que j'ai choisi il y a longtemps. Et je, non pas que je l'attendais, l'approbation, je travaille et tout va bien. Mais quand ça arrive, sans qu'on l'ait demandé, parce que je n'ai rien demandé, eh bien, on reçoit comme une approbation, comme un sentiment de bienvenue, d'appartenance... à un métier que j'aime infiniment, qui a ses aspérités, qui a ses complications, qui a ses démons, mais qui porte des valeurs qui me sont chères et qui me sont intimes, quoi.
Et du coup, professionnellement, ça change quelque chose ?
La preuve, j'ai fait Hedwig. Je ne sais pas si je l'aurais fait sans le Molière.
Ah oui ?
Ouais. Mais c'est de moi qu'il s'agit. Je ne sais pas si moi, je me serais senti capable. Peut-être D'accord. que d'avoir été comme ça, rendu légitime, m'a rendu capable de le faire. Je pense à une phrase d'Agnès Jaoui que j'ai contactée après le Molière. Parce que tout à coup, je lui ai dit, je ne sais pas à quoi ça sert un Molière, mais si ça peut me rendre légitime de vous écrire et de vous dire que je vous aime et que je voudrais un jour peut-être travailler avec vous, alors je veux que ça me serve à ça. Et elle m'a répondu une très très jolie phrase que j'ai écrite au-dessus de mon lit. Vous savez, j'ai toujours pensé que la légitimité, personne n'en avait, ou alors tout le monde.
Ah, c'est beau.
Bah oui.
Et du coup ?
Tout y est. Bah, je me suis dit, elle a raison, donc très bien. J'ai mis un peu de temps à me sentir légitime, c'est fait. Et c'est peut-être davantage grâce à elle que grâce au Molière.
Ah, c'est joli. Hedwig and the Angry Inch, c'est deux lundis par mois jusqu'en juin au Café de la Danse à Paris. Un conseil aux éditeuristes, réservez vite. Mis à part Hedwig, t'as quoi d'autre comme projet à venir ou en ce moment ?
J'ai des projets qui sont en train de décider d'être montés, donc c'est très très, ce serait très anticipé d'en parler maintenant. Mais ouais, j'y travaille, des projets d'acteurs, des projets de metteurs en scène, parce que j'ai très très envie de m'y coller aussi depuis longtemps. J'essaie de faire ça. Et c'est dur de porter des projets. Ça demande beaucoup d'investissement, ce que je sais faire, et de pugnacité, ce que j'ai aussi.
Est-ce que tu as un peu fait du coup en adaptant Hedwig ?
Oui, bien sûr.
Ouais,
c'est une amorce. C'est une manière de porter le projet, ouais, absolument. De se positionner comme ça, en tout cas. De ne pas juste être un acteur interprète qu'on choisit et qu'on désire. Ce qui peut être très agréable, mais qui, moi, ne me remplit pas totalement. Ça ne me suffit pas d'être désiré.
Et alors, pour avoir tes infos, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ? Sur Instagram ?
Oui, sur Instagram. Absolument, sur Instagram, sur Facebook.
Alors, je conseille à tout le monde d'aller voir cette pièce. Pour le moment, à Paris, on espère une tournée. Merci beaucoup, Brice.
Merci, Timothée.